RFI 5h à Paris, il est 4h en temps universel. Un nouveau journal, c'est à vous Martin Guez. Bonjour Martin.
Bonjour Nemo Ampis et à tout à l'heure à la une de l'actualité internationale ce dimanche 23 février. Ce nouvel incident au Proche-Orient, un cessez-le-feu toujours fragile entre Israël et le Hamas. L'État hébreu retarde la libération des 602 détenus palestiniens qu'il était censé relâcher ce samedi. Israël pointe les mises en scène humiliantes lors des libérations des otages israéliens par le mouvement islamiste palestinien. Le Hamas dénonce une violation grave de l'accord de trêve. Les familles des détenus palestiniens sont elles toujours dans l'attente et perdent espoir. En RDC, le président Félix Tshisekedi redit son opposition à tout dialogue avec le M23. Le groupe armé soutenu par le Rwanda qui progresse dans les deux Kivus. Nous entendrons le témoignage d'un habitant d'Uvira, deuxième ville du sud Kivu. Uvira, théâtre de pillage ces derniers jours. Une vingtaine de personnes ont été tuées dans les troubles cette semaine. Le pape François, dans un état critique, sa santé se dégrade. Le souverain pontife, atteint de pneumonie et qui a fait une crise d'asthme, il entame sa deuxième semaine d'hospitalisation. Enfin, nous serons en Hongrie avec la manifestation des juges qui protestent contre un projet de loi de Viktor Orban. Si les 6 otages israéliens détenus par le Hamas ont bien été libérés hier à Rafah et Nusayrat, l'État hébreu n'a en revanche pas relâché les 602 détenus palestiniens. Un échange retardé car Israël exige la fin des cérémonies humiliantes imposées aux otages libérés, selon les mots du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Des combattants armés cagoulés du mouvement islamiste palestinien ont à nouveau exhibé les otages sur des podiums face à la foule avant de les remettre au Comité international de la Croix-Rouge. Les 602 Palestiniens censés être libérés sont donc toujours en détention, alors qu'à Ramallah, en Cisjordanie occupée, leurs proches étaient réunis pour les accueillir. Ils ont appris la nouvelle en pleine nuit. Notre envoyé spécial Pierre-Olivier était à leur côté reportage.
En quelques instants, cette mère qui attendait son fils passe de la joie au désespoir. Cette autre femme n'a pas vu son mari depuis 22 ans. Elle ne le retrouvera pas cette nuit.
Je suis en colère et effondrée. Mais nous sommes forts et j'espère que les prisonniers vont bientôt être libres.
Ce jeune homme attend son frère, membre du bureau politique du Hamas, emprisonné depuis 15 ans en Israël. Lui restera là le temps qu'il faudra.
Rien ne cassera notre volonté et celle de notre prisonnier. Grâce à Dieu, aujourd'hui, demain, dans une semaine, il sera libéré.
Après l'abattement, en apprenant le gel de la libération des 602 prisonniers, c'est la détermination qui semble l'emporter dans la foule qui quitte les lieux.
Israël veut casser le moral des familles palestiniennes. Bien sûr, ce report nous impacte, mais on ne nous brisera jamais. Notre cause est juste.
Enfin, certains exhortent les Palestiniens à continuer de soutenir les prisonniers jusqu'à leur retour.
Nos prisonniers seront libérés. Notre peuple a tant souffert et la bande de Gaza a rayé de la carte. Les prisonniers ont donné une partie de leur vie pour la liberté. Et maintenant, il faut qu'on soit là.
En quelques minutes, le centre culturel se vide. Certaines familles venues de l'autre côté de la Cisjordanie occupée attendaient depuis plus de 20 heures. Pierre-Olivier Ramallah, RFI.
Le Hamas qui a accusé Israël de violation flagrante de l'accord de trêve. 62 otages israéliens restent toujours retenus à Gaza, dont 35 présumés morts. Les négociations de la deuxième phase du cessez-le-feu ont été retardées à moins d'une semaine de la fin de la première phase. Au Liban, des dizaines de milliers de personnes attendues aujourd'hui à Beyrouth. Le Hezbollah qui organise les funérailles de son ancien chef Hassan Nasrallah. Mort dans une frappe israélienne en septembre dernier, Nasrallah, figure emblématique du mouvement, à sa tête pendant 32 ans. Des obsèques sur lesquelles nous reviendrons plus longuement dans une heure dans le journal de Jeanne Bartoli. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi était hier devant les députés congolais à Kinshasa et il a redit son opposition à tout dialogue avec le M23. Le groupe armé qui contrôle Goma et Bukavu et qui progresse dans le sud Kivu. Ses combattants soutenus par le Rwanda se sont emparés notamment de Kamanyola la semaine dernière à 75 km d'Uvira. Uvira, deuxième ville de la province, Uvira où un calme tout relatif est revenu ce samedi. Après des scènes de pillage et des tirs signalés ces derniers jours, une vingtaine de personnes sont mortes, troubles causés par des mauvais citoyens militaires selon le maire adjoint de la ville. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, des symboles religieux de Uvira ont été pris pour cible, nous raconte un habitant de cette ville, deuxième ville du sud Kivu.
Trois militaires FARDC avec une arme se sont introduits à l'évêché d'Ouvira. Ils ont braqué une arme sur Monseigneur l'évêque. Il y a eu une autre communauté sacerdotale qui a été attaquée à deux reprises. Dans d'autres confessions religieuses, il y a aussi un pasteur qui a été attaqué dans ce sens-là. Et beaucoup de cas maintenant dans des maisons, ils commencent à arriver dans des familles. Des fois, ils cassent les portes. Ils demandent de la nourriture, ils demandent de l'argent. Ce qui a causé ces troubles, ce sont des militaires FARDC qui ont fui la ville de Bukavu, qui sont arrivés à Uvira. Certaines autorités de la ville d'Uvira ont pris fuite, mais il y a quelques-uns qui essayent un peu de remettre de l'ordre. Actuellement, nous sommes en train d'observer l'implication des autorités qui sont restées ici et qui commencent à se reconstituer, à remettre un peu de l'ordre.
Des propos recueillis par notre correspondante à Kinshasa, Coralie Piré. Le pape François, dans un état critique, après une crise d'asthme prolongée, c'est ce que fait savoir le Vatican dans un communiqué. Le souverain pontife de 88 ans, qui entame sa deuxième semaine d'hospitalisation pour une pneumonie, son état de santé se dégrade, pronostic vital engagé, selon son équipe médicale. L'actualité en France, c'est cette attaque au couteau à Mulhouse, dans l'est du pays. Un Portugais de 69 ans a été tué et trois policiers ont été blessés par un homme de 37 ans au profil schizophrénique et fiché pour risque de terrorisme. Le président français Emmanuel Macron parle d'ailleurs d'un acte de terrorisme. Le chef de l'État qui a passé 12 heures au salon de l'agriculture. Et si sa visite a été beaucoup moins mouvementée que l'an passé, l'actualité s'est invitée à son programme. Tout avait pourtant bien commencé, Victorien Villaume.
Bien entouré par son service de sécurité, Emmanuel Macron se balade de stand en stand et se fait plaisir.
Un poudrier de Dumont.
Ah, c'est sympa.
Et puis j'ai le Skippins aussi à vous. De la confrérie des rillettes.
Merci beaucoup. Prenez soin de vous, merci messieurs, dames.
Bien sûr.
Beaucoup de visiteurs tentent de le prendre en vidéo. Certains réussissent à échanger avec le président.
Vous restez jeune, moi j'ai 80 ans.
Non. Si. Ben, ne le dites pas, ça se voit pas.
Un accueil plutôt bienveillant donc, qui n'empêche pas les agriculteurs de confier dès que l'occasion se présente leurs inquiétudes. Rémunération, formation des jeunes Mercosur ou encore...
Quand on est pollué, quand on a des problèmes de qualité d'eau, il faut qu'on arrive...
Donc qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui?
De la simplification administrative.
Le chef de l'État obligé également de réagir à l'actualité brûlante, l'arrestation de Mohamed Amra.
Le ministre de l'Intérieur m'a appelé tout à l'heure pour me prévenir. C'est un formidable succès.
Puis l'attentat de Mulhouse.
Je veux dire ici la détermination du gouvernement et la mienne pour tout faire afin d'éradiquer le terrorisme sur notre sol.
Un événement qui amène le président à écourter sa visite après 12 heures de présence au total.
À Victorien Villaume du service politique de RFI, Mohamed Amra, dont parlait Emmanuel Macron, qui a donc été arrêté ce samedi à Bucarest, en Roumanie. Désigné ennemi public numéro 1 en France depuis sa spectaculaire évasion en plein transfert en mai dernier. Dans le nord-ouest du pays, le narcotrafiquant était soupçonné d'avoir commandité plusieurs meurtres depuis sa cellule. Après 9 mois de cavale, le fugitif de 30 ans avait été signalé en Roumanie avant d'être identifié et interpellé par la police locale. RFI 5h08 à Paris, comme à Berlin et Budapest. On parlera des élections allemandes dans quelques minutes. En Allemagne où l'on vote, aujourd'hui 60 millions d'électeurs appelés aux urnes pour des élections législatives anticipées. Mais pour l'heure, on prend la direction de la Hongrie, où les juges du pays sont descendus dans la rue. Alors que le Premier ministre Viktor Orban tente d'affaiblir l'indépendance de la justice dans le pays, raison qui a poussé la Commission européenne à geler les fonds destinés à la Hongrie. Les magistrats hongrois qui n'avaient jamais manifesté mais qui ont battu le pavé hier pour la toute première fois dans les rues de Budapest, ils protestent contre un nouveau projet de la réforme de la justice aux allures de chantage. Reportage Florence Labrouillère.
Malgré un froid polaire, ils sont plus de 4000 magistrats et fonctionnaires à être descendus dans la rue. Ce qui a fait déborder le vase, c'est un accord signé entre le gouvernement Orban et le président du Conseil de la magistrature. Sans consulter ses collègues, le président a accepté que l'indépendance des magistrats soit reniée en échange d'une augmentation de salaire. Il a finalement démissionné. Vêtue d'un élégant manteau bleu, Véronica, 37 ans, est indignée par le chantage du gouvernement.
Parce que le gouvernement nous paye, on renoncerait à notre liberté, mais notre liberté de juge vaut bien plus que notre salaire. C'est insensé. C'est pour ça qu'on est là.
Le gouvernement souhaite déplacer les magistrats d'une ville à l'autre en rotation permanente. Il veut aussi les empêcher de s'exprimer librement sur la justice et l'état de droit. Et comme un avant-goût de ce qui se prépare, un proche de Viktor Orban a menacé de mettre les manifestants sur liste noire. Certains ont eu peur de venir, constate Ferenc.
Ils ont peur de perdre leur poste et leur salaire.
Les juges hongrois demandent aussi un meilleur salaire car ils gagnent nettement moins que leurs collègues européens. Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Et on va terminer par cette affaire qui secoue le monde des crypto-monnaies. Bybit, l'une des plus grandes plateformes d'échange, qui a perdu près d'1,5 milliard de dollars. Des dollars en Ethereum, la deuxième monnaie virtuelle derrière le Bitcoin. Cela fait suite à un piratage de l'un de ses portefeuilles. Le PDG de l'entreprise, basée à Dubaï, assure qu'il pourra rembourser tous les utilisateurs, mais l'attaque est d'une ampleur inédite. Claire Fage.
Les trois quarts des Ethereum hébergés par Bybit ont été dérobés en un clin d'œil. Les pirates ont réussi à vider un des portefeuilles de la plateforme dit froid, pourtant censé être des coffres forts parce que déconnectés d'Internet. Ils auraient exploité une faille dans le système de signature des transactions lors d'un transfert vers un portefeuille dit chaud, c'est-à-dire connecté. Les 500 000 Ethereum sont partis directement dans les poches des hackers qui en ont converti une partie seulement dans une autre monnaie virtuelle, le Bitcoin. C'est l'attaque informatique la plus massif de l'histoire des crypto-monnaies, loin devant celle de 2022 contre le réseau Ronin, qui avait été attribué par le FBI au réseau nord-coréen Lazarus, de nouveau suspecté. Une attaque sophistiquée, a reconnu Ben Zhu, le PDG de Bybit, qui a tenu à rassurer sur X. Seul le portefeuille d'Ethereum a été touché et il s'engage à rembourser tous les utilisateurs qui le demanderaient grâce à un prêt relais. De fait, 350 000 demandes de retrait sont intervenues en quelques heures et ont été honorées à 99%. La plateforme Dubaïot a offert une récompense aux experts qui contribueraient à récupérer les actifs.
Des explications signées Claire Fage. On termine sur les terrains de sport. Pas de miracle pour Martin Bacolet en boxe. Chez les lourds, il a été envoyé au tapis par Joseph Parker dès le deuxième round sans entraînement, prévenu seulement de son combat jeudi. Il a donc perdu face au Néo-Zélandais samedi soir, hier soir à Ariad, lui qui remplaçait au pied levé l'anglais Daniel Dubois. Et puis en football, la défaite, lourde défaite de l'Olympique de Marseille face à Auxerre, 3-0 hier dans le championnat de France de Ligue 1 lors de la 23e journée. Et puis le carton, cette fois-ci pour Dortmund, c'était en Bundesliga, 23e journée là aussi, victoire 6-0 face à l'Union Berlin avec un quadruplé de l'attaquant guinéen Serhou Guirassy. Dortmund, où l'on revient dans quelques instants. Pour l'instant, il est 5h12 ici à Paris, l'info continue.
RFI, toute l'actualité.
Martin Guèze.
Et dans le prochain quart d'heure, nous parlerons de l'Ukraine à la veille du 3e anniversaire du début de la guerre et de l'invasion russe. C'était le 24 février 2022. Une guerre de drones, nous dira Franck Alexandre dans sa chronique Défense. Nous parlerons aussi de la politique de l'autruche et même de l'autruche tout court, drôle d'oiseau qui ne peut pas voler mais qui court très très vite, nous dira Florent Guignard dans C'est dans ta nature. L'intelligence artificielle à l'honneur d'un vivre ailleurs. Corinne Manjou se penche sur ces IA qui viennent en aide aux expatriés pour mieux s'intégrer dans leur pays d'accueil. Enfin, nous finirons en musique avec la playlist RFI. Mais pour l'heure, et comme promis, on file à Dortmund, on file en Allemagne. Et nous voilà donc à Dortmund, grande ville de la Ruhr de l'Ouest allemand, qui s'apprête à voter ce dimanche pour les élections fédérales. 60 millions de citoyens appelés à élire leurs représentants au Bundestag dans tout le pays et à consacrer un nouveau chancelier. Olaf Scholz devrait céder sa place. Son parti, le SPD, n'est crédité que de 15% d'intention de vote dans les sondages, deux fois moins que la droite conservatrice, la CDU de Friedrich Merz, qui est largement favori. Moins aussi que l'AFD, le parti d'extrême droite, crédité d'un score historique. Une percée qui inquiète en Allemagne. Reportage à Dortmund de notre envoyé spécial Julien Chavanne.
Samedi matin, 10h, c'est l'heure du cours d'allemand à l'association Train of Hope. Une dizaine de femmes sont là, cahiers sur la table. Masma Husseini a quitté l'Afghanistan il y a 10 ans. Le succès de l'AFD lui fait peur. Elle raconte avoir rejoint l'Allemagne pour fuir l'oppression des talibans. Alors, sur retrouver aujourd'hui pointé du doigt, stigmatisé par la deuxième force politique d'Allemagne, la déçoit énormément. L'association Train of Hope, le train de l'espoir, a été créée par Fatma Kaja-Kurtlu en 2015, quand Angela Merkel a ouvert les portes du pays aux réfugiés syriens. Pour cette élue municipale du parti de gauche, Die Linke, une AfD forte au Bundestag serait catastrophique.
Ils vont faire des lois différentes qui vont rendre la vie des étrangers plus difficile qu'elle ne l'est en réalité. C'est déjà dur, mais ça va le devenir encore plus. On a le sentiment de ne pas être le bienvenu ici. On ne peut jamais dire « Ok, c'est chez moi, je peux vivre ici en paix ». Ce n'est pas possible.
David Digman organise à sa façon la résistance. Il s'occupe à Dortmund de la branche jeunesse de la DGB, la principale confédération allemande de syndicats. Il donne des cours dans des collèges pour sensibiliser les jeunes aux dangers de l'AfD, un parti nazi, selon ses mots.
Beaucoup de gens ne se sentent pas assez pris en compte par les grands partis comme le SPD ou la CDU. Et l'AfD a des réponses très faciles à certaines questions. Le problème, c'est que ces réponses sont racistes.
L'AfD prospère chez les jeunes et elle séduit de plus en plus parmi la classe ouvrière. Sur la place centrale de Dortmund, le grand syndicat de la métallurgie IG Metall organise un rassemblement. On y croise Marcel, casque sur la tête. Il tient une pancarte où il est écrit
« L'AfD n'est pas du côté des travailleurs ».
Membre du Parti communiste, il travaille chez ThyssenGroup.
Je suis contre l'AfD et je veux que l'AfD soit interdite parce qu'ils sont fascistes et nous devons donc lutter contre l'AfD.
S'il devient chancelier, Friedrich Merz a exclu de gouverner avec l'AfD, mais le parti d'Alice Weidel espère obtenir suffisamment de voix pour devenir incontournable dans le prochain Parlement. Julien Chaban, Dortmund, RFI.
Des élections allemandes à retrouver également sur notre site internet et ce papier fleuve de notre correspondant historique à Berlin, Pascal Thibault, intitulé « Virement de bord en eau trouble » pour tout savoir des enjeux de ces élections législatives anticipées. Rendez-vous donc sur le www.rfi.fr et puis rendez-vous ce soir, édition spéciale sur RFI, à retrouver à partir de 18h, temps universel. Drôle d'anniversaire, demain lundi, celui des 3 ans de la guerre en Ukraine. Et une drone de guerre, les combats d'artillerie ont laissé place à un véritable affrontement de drones entre la Russie et l'Ukraine. Un recours massif à ces engins aériens qui bouleversent les doctrines militaires traditionnelles. Fini la guerre de mouvement, place à l'attaque des drones. Chronique Défense, signé Franck Alexandre.
L'Ukraine produit 10 000 drones aériens par jour. Elle en consomme presque autant. Le volume est vertigineux. Sur la ligne de front, les drones pullulent avec pour conséquence de rendre transparent le champ de bataille et illusoire la concentration d'hommes et de matériel. Les Russes, qui ces derniers mois ont repris l'initiative, ont dû s'adapter, analyse Jean-Christophe Noël, chercheur associé à l'IFRI.
Ce qu'ils vont privilégier, c'est des assauts par un nombre très réduit de soldats, ça peut être 3 à 4 soldats, qui vont essayer de s'infiltrer, d'essayer de tenir en attendant des renforts. Et donc, ils vont réussir justement à modifier par des petits sauts cette ligne de front et progressivement à grignoter.
Au début du conflit, l'armée russe a été surprise par l'afflux massif des drones. Elle a depuis comblé son retard, mais deux approches différentes ont initialement vu le jour.
Les Russes ont développé des drones qui valaient beaucoup plus cher. Des drones russes et des drones sophistiqués qui valent 30 000 dollars. Alors que chez les Ukrainiens, qui maintenant utilisent des FPV, les First Personal Viewer, c'était en fait, vous avez des lunettes et vous voyez ce que voit le drone et vous pouvez le diriger là où vous voulez, ce sont des drones qui coûtent moins de 1000 dollars, mais qui sont très consommables. Mais on s'aperçoit que progressivement, les Russes arrivent un petit peu aussi à décentraliser ces productions pour essayer de copier ce qu'il y a de mieux chez les Ukrainiens. Et les Ukrainiens, à l'inverse, ont remarqué toutes les attaques de drones russes avec les Shahed iraniens. Ils ont aussi commencé à développer des drones qui leur permettent d'attaquer à l'intérieur de la Russie. Chacun essaie de réagir, mais encore une fois avec deux modèles différents. Un qui est au départ très centralisé, voire trop centralisé chez les Russes, et quelque chose qui est très décentralisé, voire trop décentralisé chez les Ukrainiens.
Dans un système où l'innovation est reine, l'écueil principal, c'est la production. Comment passer à l'échelle? Jean-Christophe Noël.
Les jeunes Ukrainiens arrivent à trouver des solutions pour compenser certaines faiblesses. Et c'est pour ça qu'on a vu une multitude de drones apparaître qui remplissent des fonctions très diverses. Évidemment, c'est pour voir, évidemment, c'est pour détruire, mais parfois, c'est pour aussi servir de relais. C'est pour essayer de détecter différents capteurs, ou même des tentatives pour essayer d'abattre d'autres drones, etc. Donc, on est vraiment dans un processus très décentralisé où on a du mal à passer à l'échelle. C'est-à-dire que finalement, des initiatives locales ont du mal à être généralisées. Du point de vue russe, c'est l'inverse. La porosité avec l'armée est plus compliquée. Et donc souvent, eux réagissent au bout d'un mois ou deux mois à certaines innovations. Ils arrivent à s'adapter, ce qui oblige donc les Ukrainiens à encore penser cette innovation. Et on voit des deux côtés un effet miroir. C'est-à-dire quand il y a une solution qui marche bien, l'autre va tout de suite l'adapter.
Dans les états-majors européens, le sujet est devenu brûlant. L'urgence est de voir émerger des entreprises de défense capables de produire des drones ultra-novateurs et en quantité industrielle.
Franck Alexandre sur RFI, les 3 ans de la guerre en Ukraine. On y reviendra bien sûr demain, matinée spéciale depuis Kiev, autour d'Andrian Mellard, RFI, 6h19 à Kiev, 5h19 ici à Paris.
C'est dans ta nature.
Et un drôle d'oiseau, à présent, qui ne peut pas voler. Qu'on moque parfois pour son comportement et sa façon de cacher sa tête dans le sol, la fameuse politique de l'autruche. Une autruche qui bat pourtant tous les records et que réhabilite ce matin Florent Guignard dans C'est dans ta nature.
Mon tout comme plum plum des oiseaux, des animaux.
C'est l'oiseau de tous les superlatifs. L'autruche est l'oiseau le plus grand au monde, 2,50 m environ pour le mâle. L'oiseau le plus lourd, jusqu'à 150 kg. L'oiseau qui pond les œufs les plus gros, 1,5 kg, l'équivalent d'une vingtaine d'œufs de poule. C'est enfin l'oiseau le plus rapide au sol. Une autruche peut courir pendant une demi-heure pour échapper aux prédateurs de la savane africaine avec des pointes à 70 km/h.
Eh bien oui, Groucha, vous savez que je détiens ce record depuis bientôt 2 ans. Et j'ai appris qu'il était menacé par une autruche néo-zélandaise. Dégagez la route, je vais décoller.
Alors non, d'abord, une autruche néo-zélandaise, ça n'existe pas, il n'y en a qu'en Afrique. Et puis les autruches sont bien incapables de décoller. Oui, on ne peut pas avoir toutes les qualités. L'autruche ne sait pas voler. Oui, c'est un peu la honte pour un oiseau. C'est d'ailleurs le cas de quelques 80 espèces d'oiseaux sur Terre qui restent sur Terre. C'est d'abord une question de poids et puis l'autruche, à la différence des oiseaux volants, ne possède pas de bréchée au niveau du sternum, un os où sont rattachés les muscles des ailes. Mais ça n'a pas toujours été le cas. L'ancêtre de l'autruche, au moment des dinosaures, savait voler. Une capacité qu'il a perdue en l'absence de prédateurs après l'extinction des dinosaures et avant que les mammifères deviennent les maîtres de la prédation.
Je suis une autruche folle de jazz et de scat. Je chante en faisant.
L'abandon du vol a permis à l'autruche de muscler ses pattes, lui donnant la force de pouvoir assommer un lion qui s'approcherait un peu trop près.
Avec mes grandes pattes, je fais toutes les danses. Boogie Charleston, Java Square Dance, la valse à Milton et la mazurka. Mais je laisse aux moineaux le soin de faire disco, disco.
Sachez enfin que l'autruche possède les yeux les plus gros de tous les vertébrés, 5 cm de diamètre, plus grands que ceux de l'éléphant. L'autruche a des yeux plus gros que son cerveau, mais n'en tirez aucune conclusion.
Le sable dans lequel douillettent leurs autruches enfouissent la tête, on trouve pas plus fin.
L'autruche fait-elle l'autruche?
Met-elle comme nous la tête dans le sable pour ne pas voir la réalité en face, se voiler la face? Eh bien non, l'autruche n'est pas comme nous. C'est une légende née d'une confusion. Pour se cacher dans la savane africaine où les arbres sont rares, la végétation rase, l'autruche qu'on voit de loin s'aplatit au sol, le cou plaqué en avant, si bien que les humains ont longtemps cru qu'elle enfonçait sa tête dans le sol. Mais la politique de l'autruche, en particulier face à la crise climatique, il n'y a que les humains qui font ça très bien.
Moi, dès que je mets la tête dans le sable, j'y vois plus clair.
Voilà, pas de politique chez les autruches. Opération réhabilitation terminée. C'était Florent Guignard pour C'est dans ta nature.
Vivre ailleurs.
Une intelligence artificielle pour mieux s'intégrer dans son pays d'accueil. Voilà le projet d'Armelle Perben, créatrice d'un programme en ligne pour les expatriés du monde entier. En France, son projet se nomme Absolutely French, une IA qui vise à mieux appréhender la culture française, notamment pour les conjoints des expatriés. Armelle Perben, au micro de Corinne Manjou pour Vivre ailleurs.
Absolutely French, c'est une formation pour préparer les conjoints d'expatriés à l'expatriation avec l'aide de l'intelligence artificielle. En fait, c'est pas un outil d'IA, c'est vraiment de leur donner les clés pour utiliser l'intelligence artificielle. Donc on leur montre comment ça fonctionne pour qu'ils deviennent autonomes pour se préparer à l'expatriation. C'est sur 4 semaines, c'est des petites vidéos en ligne et c'est des lives une fois par semaine et avec du coaching individuel aussi. En fait, on a l'habitude d'accueillir des conjoints d'expatriés depuis plus de 10 ans maintenant. On sait exactement quels sont les points importants quand on veut bien s'intégrer dans un pays pour que ça se passe bien, pour aller développer un projet professionnel. Donc on a fait une formation qui condense notre savoir en 4 semaines. pour bien préparer les conjoints d'expatriés à partir, quel que soit le lieu de départ et quel que soit le lieu d'arrivée.
Qu'est-ce que ce nouveau programme a de plus que vos autres programmes ?
Alors, en fait, il y a Absolutely French qui accueille les conjoints d'expatriés à Paris avec une formation de français pour les intégrer rapidement et développer un projet professionnel. Absolutely Talented, c'est le salon de l'emploi pour être conjoint d'expatriés, avec des workshops en anglais sur le monde du travail, sur les différences culturelles, etc. Et Absolutely Ahead, c'est vraiment en amont, c'est la préparation. C'est ouvert à des gens, quelle que soit leur ville et leur pays. Donc ça peut être un Chinois qui est à Shanghai et qui va en expatriation au Mozambique, par exemple. Il aura les mêmes outils pour réussir son expatriation.
Et pourquoi vous avez pensé à mettre sur pied ce nouveau programme ?
Eh ben parce que j'ai rencontré une femme qui était en Suède et qui m'a dit « Mais moi, j'ai vu ce que vous faites, c'est génial, mais moi je suis en Suède, je peux pas bénéficier d'Absolutely French à Stockholm, c'est un peu loin pour venir faire des cours avec nous. » Et elle m'a dit « Il faut absolument que vous fassiez quelque chose pour nous, pour les autres personnes qui sont à l'étranger, qui veulent bénéficier de ce que vous faites. » Et c'est comme ça qu'est née l'idée, et après on a travaillé donc avec des formateurs et on a monté tout le contenu en fait d'Absolutely Ahead.
Et le contenu, c'est en 4 semaines. Concrètement, comment ça se passe ?
Quand les gens s'inscrivent, déjà, ils ont 1 heure de live tous ensemble. Donc, c'est par formation. Donc, on va avoir entre 10 et 20 personnes par formation. Et on se rencontre une première fois en live d'une heure. D'abord, ils ont un questionnaire pour savoir qui ils sont, etc. Et que ça réponde bien à leurs demandes. Ensuite, on les rencontre. On leur présente le programme, ce qui va se passer, etc. Et on va se suivre tous ensemble pendant 4 semaines. À chaque vidéo, ils vont avoir des petits exercices à faire sur leur propre projet d'expatriation. Donc là où ils vont, dans quel pays ils vont aller, est-ce qu'ils parlent la langue, voilà, toutes les choses essentielles pour bien s'intégrer là-bas. Et ensuite, ils ont aussi la possibilité de rencontrer en individuel un coach, une fois par semaine.
J'imagine que tout ça n'est pas gratuit. Quelles sont les conditions pour participer ?
Donc là, la première formation qui commence le 6 mars est à 50% de réduction, donc elle a 900 euros et ça dure 4 semaines. Voilà.
900 euros au lieu de 1800.
Exactement. Et ensuite, tous les mois, il y aura une nouvelle session de formation qui commencera.
C'est une formation où l'intelligence artificielle est importante.
Mais moi, ce que je vois dans les gens qu'on accueille, c'est que les conjoints d'expats ne servent pas, pour moi, assez de l'intelligence artificielle pour se préparer et pour la suite. Donc, le message, c'est vraiment les aider à prendre en main l'IA pour qu'ils se sentent plus à l'aise en arrivant en expatriation. Parce que l'IA est vraiment un outil magique. C'est comme avoir un coach 7 jours sur 7 à la maison. Comment l'utiliser et comment devenir autonome avec ? C'est vraiment l'idée derrière. Donc, ce n'est pas juste une formation pour se préparer à l'expatriation, c'est aussi une formation pour comprendre l'IA et bien l'utiliser. C'est les deux ensemble. Ça fait des belles choses dans l'expatriation aussi.
Armelle Perben qui répondait à Corinne Mondjou pour Vivre ailleurs sur RFI. On termine en musique avec des stars de l'afrobeat nigériane, Asake et Wizkid, qui nous envoient ce matin un petit MMS.
What's up on the time, what's up on the time? When I just did try, when I just did try. When I drop a song, I go need to dance. I do a kakuru kere, I dey pay my price. Then I find the sound among all the sounds. I no get a name, I no sing a sound. Sound, sound, Mr. Money sound. I want the precise, I want the precise. I be lying, militant, military, military, match up my head. Vigilant, vigilant, give me Lord, I dey on your peace. Cemetery, cemetery, people we don't die, people cemetery. Life is not easy, I know it's not easy, you guys do the thing I'm easy.
So funny, you poor funny.
fee qui gagne. Me double l'allant, pharmacie tu gagne. You know, be run from who you are. And waiting go be man is cast in stone. Me double l'allant, power salut.
Tout en douceur, MMS, Dasake Whisky, des choix des programmateurs de RFI ce matin. C'est la fin de votre demi-heure d'info. Mise en onde par Benoît Vandenbroek, Grégory Lesca à la rédaction en chef. Merci à eux. Restez bien avec nous tout de suite. Xavier Besson pour le retour de l'actualité africaine. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying.